Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En ce printemps, il est encore temps pour les étudiants de penser à s'inscrire ou se réinscrire à la faculté ou en école. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'Institut catholique de Toulouse et plus particulièrement sa faculté de philosophie. Les universités catholiques sont souvent considérées en France comme des ovnis dans le paysage universitaire, des îlots de culture chrétienne pour certains, une injure faite à la laïcité pour d'autres. D'où viennent ces universités catholiques? Quand ont-elles été fondées? Quelle est leur histoire? Quelle est l'histoire de celle de Toulouse? Quelle est leur mission propre et leurs défis actuels? Voilà, démarrage de semaine un petit peu difficile. Ce matin, nous sommes avec vous, Andrea Bellantone. Vous êtes doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, merci pour l'invitation.
Et vous êtes d'origine italienne, comme votre nom l'indique.
Oui, j'espère que mon accent ne gênera pas les personnes qui nous écoutent. Je m'excuse dès maintenant.
Au contraire, ça nous fait voyager. Alors, dans ce début d'émission, je voulais avec vous peut-être faire un rapide parcours. L'université catholique, c'est vrai que tout le monde n'a pas étudié à l'université catholique, loin s'en faut. Ça vaut le coup peut-être de rappeler l'histoire de ces universités. Quand sont-elles nées? Commençons de manière assez générale. C'est vrai qu'on...
Mais de manière assez générale, on peut dire que les universités, d'un point de vue historique, sont catholiques, au sens que l'idée d'université est née dans l'Europe du Moyen-Âge, et l'Europe du Moyen-Âge était chrétienne, était catholique. Donc, d'une certaine manière, parler d'université catholique d'un point de vue historique, si on parle de la naissance de l'université, est tout à fait naturel. L'université était catholique, ne pouvait pas être autrement, d'une certaine manière. Plus dans les détails, les universités catholiques en France, ou les instituts catholiques en France, ce sont des institutions qui sont nées au 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, et c'est le cas, évidemment, aussi de l'Institut catholique de Toulouse. Leur histoire traverse le XXe siècle avec tous les moments de développement culturel et aussi les grandes tragédies du XXe siècle. L'Institut catholique est lié aussi aux grandes tragédies de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a une histoire dont les racines remontent au Moyen-Âge, mais c'est aussi une institution qui a traversé l'histoire moderne de la France.
Alors il y a eu des périodes un peu de creux, c'est-à-dire qu'à la Révolution française, les universités catholiques ont été fermées d'une certaine manière. Il y a eu comme une période de désert. Et puis, en effet, à la fin du 19e siècle, à nouveau, les universités catholiques ont été autorisées. Alors d'ailleurs, il ne faut pas dire université catholique, il faut dire institut catholique.
Institut catholique.
Institut catholique.
Oui, c'est la bonne définition, effectivement. Alors, disons que l'université en France est née au 19e siècle. C'est avec la réforme de l'université de Napoléon qu'on peut commencer à parler de l'université moderne en France, des réformes qui se sont achevées à l'époque orléaniste, grosso modo, donc autour des années 40 au 19e siècle. Les universités catholiques ou les instituts catholiques sont fondées et se développent à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, donc essentiellement dans la Troisième République. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'État réserve le nom d'université pour ce qu'on appellera les universités au sens propre, c'est-à-dire les universités d'État, et les institutions catholiques d'enseignement supérieur s'appelleront instituts catholiques, même si encore aujourd'hui, il y a l'Université catholique de l'Ouest ou l'Université catholique de Lyon.
Alors pourquoi cette précaution de langage? Parce qu'on n'autorise pas les universités catholiques à avoir le nom d'université, c'est juste une...
Pour moi, que je suis italien, c'est quand même un argument un peu difficile à comprendre. Et toutefois, il y a un monopole de la part de l'État, du mot université, comme aussi des intitulés des diplômes, non? Parce que en France, évidemment, l'État garde le monopole de l'enseignement supérieur et éventuellement, il accorde à des institutions privées la possibilité de délivrer des diplômes sous son autorité, évidemment.
Alors, vous n'êtes pas le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, je le précise, qui est le père Luc Thomasson, donc dominicain. Vous êtes le doyen de la faculté de philosophie. Néanmoins, c'est vrai, difficile de commencer cette émission sans faire quand même cette promenade historique. Est-ce qu'on peut en dire un mot un peu plus de cet Institut catholique de Toulouse? Alors, vous disiez qu'en fait les universités étaient nées au Moyen-Âge. Il faut dire que Toulouse a été quand même malgré tout dans les premières universités. Alors, c'était pas l'Institut catholique de Toulouse, mais voilà, on pense évidemment à Saint-Dominique. Il y a eu depuis très longtemps, comme à Paris, des universités catholiques à Toulouse. Ça a été un des bassins en fait de l'université française.
Oui, c'est la raison pour laquelle, évidemment, je disais que les racines de l'Institut remontent au Moyen-Âge, mais ce qu'on appelle aujourd'hui Institut catholique a toute une histoire du 19e, du 20e siècle. Et aujourd'hui, il s'agit d'un centre de formation et de recherche universitaire extrêmement vivace, qui compte en même temps des formations sous l'autorité du recteur d'académie, donc des formations qu'on pourrait appeler des formations d'État, et des formations ecclésiastiques, c'est-à-dire des formations diplômante sous l'autorité de Saint-Siège. On a 5 facultés, plusieurs organismes rattachés sous différentes formes à l'ICT, et ça suffit de lister les 5 facultés pour voir qu'effectivement c'est une institution dans laquelle les deux sources, disons comme ça, de sa légitimité, État et Saint-Siège, se mélangent de façon heureuse.
5 facultés en France.
Non, 5 facultés à l'Institut catholique de Toulouse. D'accord. Les 3 facultés ecclésiastiques, pour ainsi dire classiques, la théologie, la philosophie et le droit canonique, la faculté de lettres et sciences humaines et la faculté de droit civil. Donc vous voyez bien que c'est une institution qui a une double nature et aussi une double mission.
Alors, à l'intérieur de ça, dites-nous un mot de la philo. Il faut peut-être dire un mot aussi, c'est le père Luc Thomassum qui en est le recteur, mais on va dire le grand patron, le chancelier, on dit, ça reste Monseigneur Le Gall. Voilà,
oui, exactement.
Ça vaut le coup d'en dire un mot, c'est quand même pas,
oui,
quand même pas
bien
anodin.
Sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a plusieurs organismes, le conseil d'administration, l'assemblée des évêques, c'est-à-dire c'est quand même une institution gouvernée de façon collégiale. Et plus spécifiquement, la faculté de philosophie est une faculté qui a été instituée à la fin du 19e siècle, qui à l'origine ne délivrait que des diplômes ecclésiastiques et qui aujourd'hui délivre aussi un diplôme sous l'autorité de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle un jury rectoral, donc sous l'autorité du recteur d'académie de Toulouse et d'un jury rectoral qui est nommé par le recteur d'académie. Mais la faculté dispose en total de 4 formations diplômantes. La licence d'État, une licence canonique, donc un diplôme de niveau master sous l'autorité du Saint-Siège, un doctorat et aussi un baccalauréat canonique, c'est-à-dire une formation de premier cycle essentiellement réservée aux religieux.
Alors, la philo dans tout ça, est-ce que vous pouvez on y reviendra un peu plus longtemps dans cette émission, mais est-ce que la philo au milieu d'ICT, c'est quoi? C'est une petite section,
Vous savez, en général, la philo en France aujourd'hui.
C'est jamais le gros des troupes,
C'est-à-dire, ce sont toujours des petites filières. Juste hier, je regardais les statistiques nationales des inscriptions en philosophie, ou de pré-inscription pour 2016-2017, et il y a moins que 2000 candidats. Dans toute la France, pour grosso modo 60 formations. Ça veut dire qu'il y a en moyenne de 25-30 inscrits pour chaque formation. Et c'est aussi la raison pour laquelle plusieurs licences en philosophie en France, dans les universités ou dans les privés, sont en crise. Cela correspond à une certaine inflation des formations de philosophie aux années 80, aux années 90, qui ont un peu déçu d'un point de vue de l'insertion professionnelle hors public. Et aujourd'hui, il y a un recul de ces formations-là. Ce qui n'est pas du tout un mal, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'insertion professionnelle. Donc, s'il y a une baisse des inscriptions, il y aura évidemment une insertion professionnelle possible, plus importante. Et en même temps, il s'agit aussi de formations, d'un type de formation demandée pour l'enseignement, pour la formation, mais aussi dans les entreprises aujourd'hui, on demande de plus en plus des compétences de sens critique, d'analyse conceptuelle, qui peuvent être acquises à travers une formation en philosophie au moment des licences.
Alors avant qu'on fasse une première pause musicale, est-ce que vous pouvez nous dire comment se portent les inscriptions? Je lisais en préparant cette émission qu'en fait les inscriptions dans les universités catholiques ont tendance, alors les instituts catholiques ont tendance à beaucoup augmenter. Il y a à peu près 20 000 étudiants en 2005, aujourd'hui il y en a presque 25 000. Ouais. Voilà, est-ce que la philo à Toulouse se porte bien comme ça?
C'est une toute petite filière dans laquelle nous comptons grosso modo une centaine d'inscrits en général à la faculté. Elle se porte relativement bien si on considère l'état général des inscriptions en philosophie en France. Voilà.
Que dans son sang l'Orient coule aussi, que les mélanges font de beaux enfants, qu'il est attendions passionnément. Que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps. Oh Dieu, qu'il a bien le temps. Et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains. Partout s'apprend le bien, le mal et même le bonheur. Qu'il ne perde jamais ses yeux d'enfant devant trop de malheur et de laideur. Qu'il regarde avec son cœur. Je lui dirai d'être sage et prudent, d'aller frôler les glaces et les feux. Qu'il goûte à tout mais sans jamais dépendre. Que trop peut être pire que trop peu. Pire que trop peu. Hey! Et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien l'unique pour moi. Je lui dirai les chansons, les poèmes, qu'il n'y a pas de. Qu'il est si grand, qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi.
Voilà, ce matin donc une émission sur l'Institut catholique de Toulouse et plus particulièrement donc sur sa filière philosophique, on va dire, sur sa faculté de philosophie avec Andrea Balanton qui est doyen de cette faculté, jeune doyen, enfin vous êtes là depuis 3 ans, je ne sais pas quel est votre âge, en tout cas vous avez l'air jeune, voilà donc de l'Institut catholique de Toulouse. Alors peut-être c'est vrai que je disais en introduction, souvent l'université catholique en France, quand on n'est pas soi-même chrétien, ça paraît être un peu un ovni, voire même pour un certain nombre peut-être d'intellectuels ou pour le grand public, on a l'impression qu'il y a comme une opposition presque dans les termes entre université et catholique. Quelle est la, comment dire, on va dire, à quoi servent-elles? Quelle est leur mission particulière, leur mission propre, selon vous, au milieu du monde universitaire?
Mais la mission de l'enseignement supérieur catholique, aujourd'hui, en France, comme en général en Europe, est tout d'abord celui de transférer le riche héritage chrétien à la société. Évidemment, selon la modalité qui est propre à une université, c'est-à-dire en fécondant, si je peux dire comme ça, la formation universitaire, qui doit rester une formation scientifique, de niveau justement supérieur, avec les valeurs et l'inspiration du christianisme. C'est la raison pour laquelle nous y tenons beaucoup. Ce qui n'implique pas, évidemment, un caractère confessionnel. C'est la raison pour laquelle je parle d'héritage chrétien, que c'est quelque chose qui ne dépend pas nécessairement de la foi, mais c'est tout simplement une partie constitutive, et quelle partie, extrêmement importante, de la culture et de l'esprit de la société européenne et plus en général de la société occidentale. Je dirais que notre rôle aujourd'hui est essentiellement ce rôle-là.
Ce qui n'est pas anodin dans une, comment dire, dans un pays ou dans une Europe qui a tendance à parfois, enfin nous chrétiens considérons qui a tendance à refuser sa culture chrétienne, évidemment c'est une mission qui peut déranger.
Et en même temps c'est une mission qu'il faut remplir, si je peux dire comme ça, avec courage, dans une société qui est pluraliste, donc il faut se rendre compte du pluralisme, je dirais, essentiel, foncier de la société d'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de rêver hégémonie culturelle ou retour à une sorte de monisme culturel dans lequel il n'y aurait qu'une culture. C'est pas de tout ça, évidemment. Il s'agit, dans le pluralisme d'une société justement laïque, de apporter une contribution spécifique, la contribution de la culture universitaire inspiré aux valeurs de l'Évangile. Je pense que de ce point de vue-là, si l'université, les universités catholiques en Europe ne prennent pas la relève, elles risquent de rater l'un de leurs missions principales, qui c'est exactement celle de contribuer au développement spirituel de l'Europe en tenant très haut, ou en faisant, disons comme ça, en faisant diffuser la lumière de l'Évangile à travers la formation universitaire.
Alors j'ai envie de vous taquiner un petit peu. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que vous observez avec vos étudiants? Alors en préparant l'émission, je tombais sur un discours du pape François en novembre 2015, je crois, à un aéropage d'universitaires catholiques, qui disait la chose suivante: éduquer chrétiennement, ce n'est pas seulement faire une catéchèse, ce n'est qu'une partie. Ce n'est pas seulement faire du prosélytisme, pardon. Éduquer chrétiennement, c'est faire progresser les enfants dans les valeurs humaines, dans toute leur réalité. Une de ces réalités, c'est la transcendance. Est-ce que, alors, et ça complète ce que vous venez de dire, mais quel est un peu votre retour avec les étudiants? En quoi, parce qu'on imagine que vous ne leur parlez pas du bon Dieu, évidemment, en quoi c'est si important que cette finalité d'enseignement puisse avoir quelque chose, on va dire, de
oui,
supérieur ou de
plus. Alors, essayons de voir les choses au contraire, c'est-à-dire, essayons de voir ce que les gens qui s'inscrivent chez nous, ou qui participent à notre activité, nous demandent. Bon, essentiellement, les questionnements avec lesquels nos étudiants arrivent sont des questionnements qui concernent la condition humaine, la vocation de l'homme, et souvent son ouverture à la transcendance. Donc vous voyez, ce sont des grands thèmes dans lesquels la philosophie chrétienne a quelque chose à dire, le personnalisme d'un côté, et de l'autre côté, une théologie rationnelle qui explique de quelle manière la raison humaine est ouverte à la transcendance, et de l'autre côté, par exemple, une philosophie de la religion qui montre comment dans l'expérience de la condition humaine, de notre commune humanité, il y a un constant renvoi à quelque chose qui nous dépasse et dont nous avons besoin. Alors, si vous voyez les choses de ce côté-là, vous voyez que nous rendons service à la société, je répète, une société dont nous connaissons le pluralisme, de façon non confessionnelle, de façon rationnelle, avec les instruments qui sont propres à la philosophie, dans la tradition classique, mais aussi de la philosophie contemporaine, pour répondre à des questionnements qui sont dans la société d'aujourd'hui. De ce point de vue-là, on se sent pas du tout à l'écart de la société, mais on se sent au centre de ses besoins intellectuels et spirituels.
Alors vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a un certain nombre maintenant d'étudiants qui viennent, quel que soit leur âge, aussi pour trouver un peu un îlot, c'est ce que je disais en introduction. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis comment vous faites peut-être pour aider dans ces cas-là ces étudiants, quel que soit leur âge, à pas seulement venir se barricader ou se protéger au sein de l'université catholique?
Bah, si vous voulez, l'expérience de la faculté de philosophie, dans laquelle, comme vous l'avez dit, je suis depuis quelques années, mais pas beaucoup finalement, c'est l'expérience d'un centre de formation ouvert à la société, pluraliste, je répète ces mots parce que c'est extrêmement important, je ne veux pas du tout donner l'impression que parler d'inspiration chrétienne veut dire rester enfermé dans la confession ou dans une sorte de position idéologique, voilà, dans une position idéologique, c'est pas du tout ça. Donc on est ouvert, on est pluraliste et on est ouvert à l'international. Donc si les étudiants cherchent un îlot, comme vous l'avez dit, ils cherchent un îlot pour se former d'un point de vue intellectuel, mais dans un milieu ouvert. Donc pour se donner le temps, si vous voulez, pour une formation intellectuelle structurée, sérieuse, pour s'épanouir aussi d'un point de vue spirituel, mais pas du tout un îlot au sens de la fermeture dans un sort de pays de rêve dans lequel on pourrait partager tous les mêmes idées sans confrontation avec l'extérieur. Chez nous, c'est exactement le contraire. C'est justement notre mission d'ouverture.
Alors, comment ne pas vous poser la question? Évidemment, on en avait parlé en préparant l'émission, la question de la laïcité. Alors, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui de parler de la laïcité, mais c'est vrai que vous, ce qui peut être intéressant, c'est entre autres que vous êtes donc d'origine italienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la manière dont cette laïcité est vécue en Italie, et puis le choc peut-être que ça a été pour vous en arrivant en France de découvrir une laïcité à la française, et quelle grande différence?
Alors, vous savez, quand on parle d'Italie, on parle d'une identité étatique qui est née au XIXe siècle, et qui est née au XIXe siècle souvent en opposition par rapport à l'Église. Et l'État italien était un État extrêmement hostile, au moins au début, hein, aux institutions ecclésiastiques. Je dirais pas au christianisme, mais sans doute aux institutions ecclésiastiques. Et donc l'anticléricalisme était quand même l'un des caractères des hommes qui ont fait l'État italien. Toutefois, l'affaire a été réglée à un certain moment. Bon, il y a plusieurs phases, je ne vais pas reconstruire ici l'histoire. À un certain moment, a été réglée. Et une fois que l'affaire a été réglée, on a accepté la chose évidente, c'est-à-dire la présence de la foi parmi les composants fondamentaux d'une société moderne. Et aussi, par exemple, la liberté de l'enseignement a été parfaitement reconnue et de façon pleine en Italie. Ce qui m'a étonné au moment où j'ai commencé à travailler en France, c'est qu'il y a une conception de la laïcité, qui est une interprétation de la législation, qui voit dans la laïcité plutôt un instrument de limitation de la liberté qu'un instrument pour permettre l'expression de la liberté, encore une fois, dans une société pluraliste.
Pourquoi vous dites que c'est une interprétation de la législation?
Parce qu'en soi, je ne pense pas que la loi doit être nécessairement appliquée comme une sorte de réduction des expressions de la liberté religieuse. Des fois, j'ai l'impression. Mais la loi peut être interprétée comme l'instrument pour garantir des espaces de expression de la liberté religieuse, respectueux justement du fait que le pluralisme ne doit devenir conflit, parce que justement nous habitons tous ensemble la cité et nous devons tous ensemble la construire, et donc les religions doivent devenir un élément qui contribue, et notamment le christianisme, au développement de la société. Donc évidemment la laïcité est absolument indispensable en société moderne, notamment aujourd'hui. Mais on peut l'interpréter de façon différente, notamment pour ce qui concerne la liberté de l'enseignement.
Alors, la laïcité que vous décrivez, c'est un peu la laïcité, on va dire, positive. En tout cas, c'était l'expression qu'utilisait Nicolas Sarkozy, enfin, qu'il continue à utiliser. Ouais. C'est pas toujours, on va dire, la laïcité qui accourt, en tout cas, on va dire, sous ce gouvernement. Est-ce que vous en voyez quelques effets, peut-être, de cette laïcité un peu dure, qui a une interprétation, on va dire, très restrictive de la loi de séparation de l'Église de 1905, voilà, d'une laïcité qui doit être, on va dire, plus large ou plus totale?
Alors, si je ne suis pas un grand spécialiste, ni un exégète, ni un interprète de monsieur Sarkozy, donc voilà, vous êtes plus spécialiste que moi dans tout cela.
C'est votre expérience de doyen, en tout
oui.
cas, qui est.
Alors, dans mon expérience de doyen, je dois dire que il y a toujours un rapport constructif avec les institutions de tutelle. Donc, je ne peux pas dire que j'ai l'impression qu'il y a une véritable limitation. Quand je parlais de interprétation de la laïcité comme limitation de la liberté, je parlais plutôt d'une atmosphère culturelle constate souvent dans la presse, dans le débat public, voilà. Donc je dirais qu'il s'agit vraiment d'une bataille, entre guillemets bien sûr, de type culturel pour faire interpréter le sens de la laïcité de l'État de façon différente. Je ne peux pas dire que d'un point de vue institutionnel, je trouve des obstacles ou des obstructions à notre travail, pas du tout.
Est-ce que vos étudiants, qui vous me disiez en préparant l'émission, qui pour certains étudient dans des universités d'État, je vais y arriver, est-ce qu'ils se plaignent comme ça d'une laïcité, on va dire, un peu féroce? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être un peu pris en sandwich entre deux types d'universités et deux discours?
Non, notre effort à la spécifique à la faculté de philosophie, mais je pense que je pourrais dire en général tous mes collègues dans l'enseignement privé catholique supérieur, est justement celui de faire vivre ensemble des dimensions différentes, tout en respectant les règles indispensables pour garantir un enseignement universitaire de qualité. Donc si vous allez vers l'enseignement universitaire de qualité, donc vers la scientificité et des instruments pédagogiques qui sont rationnels, vous allez vers l'universalité, et dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas de conflit. Si par contre, d'un côté ou de l'autre, vous restez sous des positions un peu figées, un peu idéologiques, ben, évidemment, inévitablement, vous trouverez un conflit. Depuis que je suis doyen, je ne vois pas de conflit ni de personnes qui se trouvent mal à l'aise dans nos formations.
Voilà, donc laïcité apaisée, on va dire, à l'Institut catholique de Toulouse, en tout cas à la faculté de philosophie. Avant qu'on fasse une deuxième pause, évidemment, comment ne pas parler de l'histoire de la reconnaissance des diplômes? Voilà, donc en 2008, il y a eu un accord signé, si je me trompe pas, en tout cas du temps par Bernard Kouchner, donc avec le Saint-Siège, qui était ministre des Affaires étrangères, donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, pour une reconnaissance des diplômes donc canoniques, des diplômes reconnus par le Saint-Siège, mais qui ne sont pas reconnus par l'État français. Alors du coup, on a eu l'impression à l'époque que toutes les universités catholiques allaient avoir tous leurs diplômes reconnus et des équivalences dans les universités. En fait, de fait, c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Ça fait combien?
Alors, c'est très important de dire, parce que souvent les étudiants, les familles frappent à notre porte et nous demandent si notre diplôme est reconnu par l'État. Alors, je le rappelle, pour nos formations d'État, comme on les appelle, nous sommes sous la tutelle du recteur d'académie ou en convention avec des universités d'État. Donc, nous ne délivrons pas les diplômes. Les diplômes sont délivrés par le recteur d'académie et sont évidemment des diplômes d'État. Donc, pour tous ces types de formations-là, il n'y a aucun souci. Donc, il ne faut pas créer des ambiguïtés. Pour ce qui concerne les diplômes ecclésiastiques, c'est-à-dire les diplômes délivrés sous l'autorité du Saint-Siège, là, il y a un accord qui permet aux universités d'État françaises de reconnaître le même niveau d'études. Donc, c'est un accord qui sert essentiellement pour les étudiants qui ont des diplômes du Saint-Siège et qui voudraient continuer leur étude dans un autre cycle, un cycle supérieur, dans une université d'État. Imaginez un étudiant qui a une licence canonique, c'est-à-dire un master ecclésiastique, appelons-le comme ça, et qui veut continuer un doctorat dans une université d'État. Donc il se présente à l'université d'État avec son diplôme. Alors l'accord de 2008 permet aux universités d'État de reconnaître les diplômes de licence canonique comme l'équivalent d'un master et donc de inscrire l'étudiant en doctorat. Bon. Évidemment, l'accord donne aussi aux universités toute la latitude pour juger du sérieux du diplôme et éventuellement aussi de la cohérence entre les diplômes et la formation que l'étudiant devra suivre à l'université d'État. C'est un principe qui est valable pour les universités françaises, mais c'est valable dans toute l'Europe et c'est valable aussi pour nous. C'est-à-dire, nous pouvons accepter ou ne pas accepter un étudiant en fonction aussi du sérieux de son diplôme. Alors, si vous voulez...
On pourrait imaginer que le sérieux des formations pour toutes les universités catholiques en France soit maintenant chose actée par l'État et qu'il n'y ait pas de...
Oui, disons qu'il y a, il y a une cohérence ou une non-cohérence de parcours de formation qui est laissée au jugement des institutions qui doivent accueillir les étudiants. Alors, si vous voulez, tout cela ne me choque pas. Nous faisons pareil quand il y a des étudiants qui viennent de l'étranger et qui déposent un candidat chez nous. On va aussi évaluer son parcours. Donc, le principe est juste. Laisser au président d'université le droit de décider, ça me semble tout à fait normal. Dans la pratique, on constate que la réponse est trop souvent non, plutôt que oui. Et alors, probablement, là aussi, il ne s'agit pas d'une question d'accord ou une question de reconnaissance de la qualité scientifique, mais il s'agit vraiment d'une question de connaissance réciproque. C'est-à-dire, il faut augmenter la coopération, l'interaction entre les universités d'État et les instituts catholiques et créer un milieu de confiance. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous essayons de faire, et d'ailleurs, il y a plein d'universitaires des universités d'État qui essayent aussi de le faire, et tout cela nous aide beaucoup.
Est-ce à dire que vous incitez vos étudiants à avoir parfois un double cursus pour plus de sécurité, à étudier dans une université d'État en même temps qu'ils étudient chez vous en philosophie?
Non, je pourrais pas dire ça. Je répète, nos formations de premier cycle sont des formations d'État, donc il n'y a aucun souci. Quand il s'agit de formations ecclésiastiques, notamment pour le doctorat, est possible, effectivement, pour des raisons scientifiques, de faire une co-tutelle. Ce qu'on fait, je répète, pour des raisons scientifiques. Souvent, c'est une co-tutelle avec des universités hors la France, et des fois c'est aussi un co-tutelle avec des universités françaises. Mais faites attention Emmanuel, c'est aussi vrai le contraire. C'est-à-dire des fois des étudiants qui étudient à l'université d'État frappent à notre porte parce qu'ils désirent un diplôme de Saint-Siège ou tout simplement parce qu'ils désirent se former aussi dans notre contexte. Il y a des conventions qui règlent tout cela, de plein accord entre nos institutions de l'ICT et les institutions des universités d'État.
À vous entendre, on a l'impression que c'est plutôt une bonne chose que ça se fasse justement à la discrétion peut-être des présidents d'université ou d'université à université, qu'il n'y ait pas de règles en la matière.
Je travaillerais plutôt sur la culture générale, c'est-à-dire sur la culture diffusée dans les milieux universitaires concernant les coopérations avec les instituts catholiques. Je ne pense pas, mais bon, c'est toute ma petite opinion dans tout cela, je ne pense pas qu'il faut nécessairement un accord cadre national entre la République et les Saint-Siège, mais je répète, c'est juste mon opinion personnelle. Voilà.
Radio Présence à Tarbes-et-Lourdes, 90.6. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin une émission, donc l'Institut catholique de Toulouse, et particulièrement la philo au top, tout simplement, avec Andrea Balantone, donc doyen de la faculté de la philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, parlez-nous maintenant plus avant de la philo à Toulouse. Alors moi, je vais vous dire, quand j'ai débarqué ici à Toulouse, j'ai entendu dire que la philosophie à Toulouse était enseignée de manière particulièrement classique. On dit qu'elle est thomiste, dans le jargon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le paysage des universités catholiques, peut-être pouvez-vous nous présenter la philosophie à Toulouse et qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Ah bien, ça c'est facile parce que c'est mon métier, donc je vous remercie. Bon, alors, évidemment, la source thomiste de notre enseignement est notamment à Toulouse, hein, est spécialement forte et vivante. Mais je dirais pas que la faculté se caractérise pour une sorte de monotonie thomiste, hein, qui serait quand même une chose tout à fait respectable. Mais bon, j'ai utilisé souvent aujourd'hui les mots pluralisme, peut-être c'est parce que c'est les mots que j'avais dans la tête ce matin que je me suis réveillé, d'ailleurs très tôt. Et notre faculté est un milieu de formation pluraliste. Alors, si c'est vrai, nous sommes spécialement intéressés à l'anthropologie, à la philosophie de la religion, nous sommes aussi intéressés à des corpus, c'est-à-dire à des sources, hein, de réflexion qui ne sont pas tout simplement le thomisme, mais il y a aussi la philosophie contemporaine, notamment le courant phénoménologique qui a beaucoup réfléchi autour des questions de l'expérience religieuse, par exemple. Nous sommes intéressés à l'histoire de la philosophie dans son intégralité. Et donc, si vous parlez de cursus classique, je dirais qu'il est classique parce que nous sommes attentifs à l'encadrement méthodologique de nos étudiants. Nous n'avons pas beaucoup d'effectifs, nous arrivons à les suivre chacun dans son projet culturel, et parce que nous avons, comme je le disais, un cursus qui permet aux étudiants de s'approprier de l'intégralité des grandes époques de la philosophie et des grandes figures de la philosophie. C'est qu'aujourd'hui, en France, mais aussi en Europe, est plutôt rare. Si nous faisons comme ça, c'est parce que...
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par c'est plutôt rare? Parce qu'en général, ça se fait de manière partielle ou...
Vous savez, c'est une sorte d'éclatement des études qui ne respectent plus l'ordre chronologique, hein, comme en histoire, hein, a frappé aussi l'enseignement de la philosophie à l'université. Donc on a plutôt la tendance à s'écraser sur des questions, et notamment sur les questions les plus contemporaines possibles, plutôt qu'à étudier les grandes figures du passé. Évidemment, les grandes figures du passé constituent une base à partir de laquelle on peut faire une réflexion véritablement consciente, véritablement profonde.
Donc, alors, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup les deux licences, on va dire comment ça se passe? C'est vrai que moi qui ai fait de l'histoire, voilà, ouais. Et comme ça tout le monde le saura, qui ai fait de l'histoire à la Sorbonne, c'est vrai qu'on enseignait l'histoire. Alors, on commençait par non pas par l'histoire antique et médiévale, déjà on commençait par l'histoire moderne et contemporaine. Et après, on étudiait en effet pour chaque partie, non pas l'ensemble, mais des points spécifiques, on va dire le syndicalisme à la fin du 19e siècle, l'histoire russe au 17e siècle, etc. Alors vous, comment vous y prenez?
Nous avons décidé, avec mes collègues, de donner une base historique solide à nos étudiants. Ça veut dire que pendant les 3 ans de licence, par exemple, il y a des cours d'histoire de la philosophie qui essaient de toucher les figures plus importantes ou les mouvements plus importants de la philosophie dès ses origines en Grèce jusqu'à aujourd'hui. Tout cela permet à nos étudiants d'avoir une base solide et cohérente de connaissances qui suit justement les fils chronologiques et permet en même temps à des étudiants qui sortent de formation de lycée, disons comme ça, des plus en plus fragiles. Bon, c'est le débat quotidien, on le sait, hein, c'est la crise de l'enseignement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, permet à ces étudiants-là de se réapproprier d'un héritage historique à partir duquel ils peuvent, après, développer des instruments critiques plus conscients. Donc, si vous voulez, on a essayé aussi de répondre à cette exigence de la société d'aujourd'hui, qui est celle de se réapproprier de l'héritage culturel. Pour permettre aux personnes d'avoir plus de conscience critique, hein, pas pour les écraser sur le passé, mais justement pour utiliser le passé comme une base, si vous voulez, un dépôt, hein, de connaissances utiles pour comprendre le présent et pour se projeter à l'avenir. Donc si vous voulez, c'est vraiment une de notre spécificité, l'étude de l'histoire de la philosophie de façon cohérente et selon un fil chronologique.
Donc je vous repose la question, c'est là en première année, on fait la philosophie antique, après en deuxième année on fait la philosophie du Moyen-Âge ou...
Grosso modo oui, c'est-à-dire on a 4 grandes unités d'enseignement, donc il y a la philosophie antique, la philosophie du Moyen-Âge, la philosophie moderne, la philosophie contemporaine. contemporaine. Faites attention, on fait aussi autre chose que ça. Hein. Après, il y a des cours thématiques, donc évidemment, on étudie des questions et des problèmes plutôt que des figures historiques. Philosophie politique, philosophie de la connaissance, théologie philosophique, c'est-à-dire on aborde aussi des grands thèmes. Mais je répète, c'est aussi un cursus très ouvert à l'international. Nous y croyons beaucoup. C'est la raison pour laquelle on invite souvent, c'est-à-dire deux fois par semestre, des enseignants invités d'universités étrangères. Il y a pas mal d'Italiens, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi des Espagnols, il y a des Allemands. C'est-à-dire on essaie de donner à nos étudiants des bases solides et aussi une ouverture à des styles et des modalités, si vous voulez, d'approche aux problèmes philosophiques très différentes. Donc s'il s'agit d'un milieu tout petit, il ne s'agit pas du tout d'un milieu enfermé ou replié sur lui-même.
Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez faire alors la retape, on va dire, pour votre faculté de philosophie? Quelle est, pour des parents qui craindraient que leurs enfants choisissent de faire de la philosophie parce que ça leur fermerait un certain nombre de portes en termes de débouchés professionnels, qu'est-ce que vous leur diriez de la vertu que ça a de faire des études de philosophie pour la suite?
Oui, alors là aussi, hein, je pars de ce que je constate en termes d'insertion professionnelle. Les 50% de nos étudiants font des métiers plutôt classiques pour un diplômé de philo, c'est-à-dire on les retrouve quelques années après dans l'enseignement ou dans la recherche, ou dans les métiers de la formation en entreprise. Vous voyez, c'est bien plus large par rapport à l'enseignement et la recherche comme on les conçoit normalement. Mais un bon 50% de nos étudiants, on les retrouve dans les métiers des éditions, du journalisme, dans les managements en entreprise, on les retrouve dans les ressources humaines. C'est-à-dire que quand vous faites des études en philosophie, vous êtes capable d'acquérir pendant 3 ans des compétences, comme on dit aujourd'hui, en termes de réflexion, de sens critique, de méthodologie de travail, qui vous permet une insertion professionnelle très large. Alors, par rapport à il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est-à-dire essentiellement ma génération, le cadre de l'insertion professionnelle a évolué pour un diplômé en philosophie. Donc, pour notre génération, faire les philosophes voulait dire faire des choses magnifiques et rester au chômage, ou presque. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Et, comme je le disais un peu avant, la formation en philosophie est demandée hein, par les marchés du travail, à condition qu'après une licence en philosophie, eh ben, on se donne les instruments, évidemment, pour intégrer une autre filière un peu plus spécifique, avec un peu plus de compétences professionnelles. Mais c'est quand même gagnant comme choix aujourd'hui.
Quelle est la proportion d'étudiants que vous avez qui finissent par devenir prof de philo? C'est une toute petite minorité?
Il y en a qui font des métiers de l'enseignement. Il devient un professeur des écoles, professeur au collège ou professeur en philosophie dans les lycées. C'est-à-dire, c'est très large. Hein. Il y en a aussi certains qui enseignent dans les supérieurs. Donc, je vous disais, c'est un peu difficile de dire, disons que les 50% de nos étudiants, finalement, terminent dans les métiers de l'enseignement ou de la recherche. Ce qui est, évidemment, pour nous, extrêmement important parce que ça nous donne aussi la possibilité de répondre à l'exigence, par exemple, de l'enseignement catholique hein, dans les lycées, d'avoir des personnes qui se sont formées dans un milieu qui soit un milieu de l'enseignement supérieur catholique,
voilà,
cohérent.
Du coup, ça ne fait pas beaucoup d'étudiants, mais au final, ça fait beaucoup d'élèves impactés à long terme. C'est quand même...
Ah oui, les formations de philosophie un peu partout sont stratégiques d'un point de vue culturel pour une société, parce que vous connaissez très bien en France l'importance qu'il y a l'enseignant de philosophie en terminale, plus ou moins sympathique, plus ou moins aimé, mais c'est quand même une fonction très importante, c'est une forme de clergé laïque, si vous voulez, qui peut exercer sa fonction dans la société. Donc, c'est très important d'avoir des personnes qui sont formées dans un milieu qui est celui de l'enseignement supérieur catholique.
Alors, vous avez dit, hein, vous travaillez évidemment à faire en sorte que ça ne soit pas un milieu fermé. En tout cas, vous êtes un doyen extrêmement dynamique. Et entre autres, donc, vous avez donc avec Aude Surami, hein, qui travaille avec vous, qui est vice-doyenne, si je ne me trompe pas, décidé d'ouvrir deux nouveaux masters. Peut-être pouvez-vous nous en dire un mot supplémentaire. Donc, ces masters s'appellent Anthropologie et philosophie de la personne et Métaphysique et philosophie de la religion. Alors déjà, dites-nous, on va dire pour les nuls, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qui peut être intéressé par ces masters? Je crois ouvert aussi à des adultes qui peuvent y trouver là une formation continue.
Oui, alors il s'agit de, là aussi, hein, il s'agit de formations qui délivrent des diplômes sous l'autorité de son siège, mais dont les niveaux d'études peuvent être reconnus par les institutions universitaires françaises. Donc finalement, on obtient un diplôme de niveau master, Bac plus 5. Bon. Ceci dit, là aussi, on a essayé de répondre à des exigences de la société contemporaine. Première chose, anthropologie, philosophie de la personne. Vous voyez, il y a plein de questionnements qui concernent la condition même de l'homme aujourd'hui, qui est fragilisée ou tout simplement mise en discussion, par exemple la grande question de la différence homme-animal. Vous voyez, on se pose plein de questions qui imposent des réflexions plus approfondies dans tous les milieux, même dans les milieux de l'entreprise, si vous voulez. Donc imaginez la question des expérimentations sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire être personne? Parce que la question qui concerne la nature de l'homme a été, disons comme ça, synthétisée dans la tradition de la philosophie européenne sous le titre de la personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire être personne? Alors on a essayé de répondre à ces premières grandes questions à travers la construction d'un parcours de formation en anthropologie philosophique, donc en anthropologie et philosophie de la personne. Dans cette formation, nous pouvons accueillir des personnes qui se forment à temps plein, qui font donc un cursus plutôt classique, et aussi des personnes qui se forment à temps partiel. Donc on constate qu'il y a des personnes qui viennent chez nous pour suivre des sessions.
Par exemple, donc, une mère de famille, c'est ça ou...
Il y a des enseignants, il y a des formateurs, il y a des personnes qui travaillent dans la pastorale, il y a des psychologues. Si vous voulez, il y a aussi des personnes qui sont tout simplement intéressées à développer leur intelligence de la société contemporaine. Vous avez cité évidemment une mère de famille. Voilà. Nous sommes ouverts aussi à ce type de public, à condition que ce type de public soit évidemment les instruments, disons comme ça, pour faire face quand même en formation, que c'est une formation qui reste universitaire. Mais nous sommes ouverts parce qu'il y a une demande sociale. Métaphysique et philosophie de la religion répondent à une autre question.
On a envie de dire, la métaphysique et philosophie de la religion, on se dit, bon là, pour le grand public...
C'est l'ouverture à la transcendance, qui peut se faire selon une démarche métaphysique, je dirais, selon une démarche rationnelle, ou selon une analyse des expériences religieuses des personnes.
Alors, c'est-à-dire, là je suis plus, expliquez-moi.
Voilà, alors on peut se poser la question de l'ouverture de l'homme et de l'intelligence humaine à Dieu à travers une démarche toute rationnelle, ou en analysant plutôt les expériences anthropologiques de l'ouverture à la transcendance. Par exemple, la prière, par exemple, la création d'une église, ou de vivre en communauté dans une église. Vous voyez, ce sont des questionnements, ceux d'anthropologie et ceux de philosophie de la religion, qui renvoient l'un à l'autre, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, dans le même contexte, qui est le contexte d'une formation de New Master, deux spécialités dans lesquelles il y a un tronc commun et dans lesquelles, évidemment, nous essayons de répondre à des questions qui viennent directement de la société.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie.
Présence.
Pella.
Voilà, ce matin, si vous nous prenez en cours de route et à la toute fin de cette émission, donc je vous rappelle, c'est une émission donc sur l'Institut catholique de Toulouse et plus particulièrement sur sa faculté de philosophie avec Andrea Bellanton, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, et je rappelle qu'il n'est pas le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui est le père Luc Thomas Somme, dominicain. Peut-être pour finir cette émission, vous vouliez insister sur le fait qu'il y a des publics assez variés qui suivent ce cursus de philosophie, et entre autres des laïcs qui rencontrent, on va dire, ce qui est rare aujourd'hui, des gens qui ont donné toute leur vie à Dieu, que sont les personnes consacrées ou les prêtres.
Oui, c'est un peu la spécialité ou la spécificité des facultés de philosophie dans l'enseignement supérieur catholique en France. C'est-à-dire, si vous imaginez une faculté de lettres, une faculté de droit civil, ce sont des facultés dans lesquelles vous rencontrez des étudiants post-bac, un peu classiques, laïcs bien sûr. Il peut y avoir quelques religieux, mais c'est extrêmement rare. Et à l'inverse, dans les facultés de théologie ou de droit canonique, normalement, vous rencontrez surtout des religieux, des clercs. Les facultés de philosophie, par contre, grâce au fait qu'elles ont une double nature, disons comme ça, parce qu'elles dispensent des formations d'État et en même temps elles ont des formations ecclésiastiques, ce sont des lieux de rencontres. Des rencontres entre un public, celui de formation d'État, qui des fois vient chez nous parce qu'il cherche un milieu de formation protégé, encadré, donc qui n'a pas une forte motivation d'ordre culturel ou d'ordre religieux pour venir chez nous. Et un public qui, évidemment, c'est un public de séminaristes, un public de frères carmes ou frères dominicains en formation. Alors, ces deux publics-là se rencontrent souvent dans le même milieu de formation et quelquefois aussi dans le même cours. Et quand je suis arrivé...
Ce qui doit être très exigeant pour vos étudiants, en fait, c'est... D'une certaine manière, ça les tire vers le haut beaucoup, non?
Oui, je veux dire, c'est réciproque. Hein. Il y a des contributions pédagogiques indirectes de la présence des religieux dans des cours avec des gens laïcs et vice-versa, évidemment. Mais ce qui est très important d'un point de vue, j'oserais dire stratégique, hein, c'est aussi le fait que dans ces lieux-là, des jeunes qui n'ont jamais constaté l'existence d'une vie totalement à donner à Dieu le font. Et donc, ils sont obligés à se poser des questionnements sur la légitimité de ce choix, sur la valeur de ce choix. Et vice-versa, pourquoi pas, des jeunes qui, justement, dans ces moments-là, sont en train de vivre leur formation en tant que religieux, rencontrent les tendances les plus variées de la société contemporaine et aussi les expériences les plus différentes par rapport à la leur. Alors, tout cela crée un milieu de formation, je trouve, qui soit ouvert et plutôt dynamique. Et en même temps, je pense qu'il joue aussi un rôle en termes social, même s'il s'agit évidemment d'un contexte tout petit, hein, un rôle en termes social, c'est-à-dire de connaissances réciproques entre une partie de la jeunesse, sans doute minoritaire, qui a fait un choix, qui est celle de la vie religieuse, et une partie de la jeunesse qui n'a pas fait ce choix, qui souvent ne le connaît pas et il le considère même absurde. Alors ce que je constate, c'est qu'évidemment ils s'entendent très bien, ils travaillent très bien ensemble et qu'il y a un échange extrêmement riche entre eux, ce qui me fait bien espérer aussi pour l'avenir. Hein.
Alors, dernière question, peut-être une question plus personnelle pour finir. Pourquoi vous avez choisi d'enseigner, on va dire, dans les universités catholiques? Et puis, pourquoi vous avez choisi d'être doyen? J'imagine qu'on vous l'a proposé et que vous avez accepté.
Mais peut-être élu.
Vous avez été élu, pardon. Oui. Je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passait. Alors, vous allez peut-être nous expliquer. Qu'est-ce qui vous fait, entre guillemets, vous lever le matin, Andrea Bellantolet?
Oui, alors tout d'abord, évidemment, d'une certaine manière, j'ai été choisi, hein, parce que c'est l'institution qui vous recrute, il fait une proposition. J'ai accepté d'enseigner à l'Institut catholique de Toulouse. Avant, comme peut-être vous l'avez rappelé, j'enseignais déjà à l'Institut catholique de Paris.
Non, on ne l'a pas dit ça, oui.
Voilà. Et, donc, en tout cas, ce que je trouve d'exceptionnel dans les facultés de philosophie, dans les instituts catholiques de France, c'est leur ouverture d'esprit. Ce sont des milieux dans lesquels, d'une certaine manière, il n'y a pas de véritable limite d'enseignement. Il y a une véritable liberté de recherche et liberté d'enseignement, ce qui donne évidemment à un enseignant chercheur, un milieu, notamment en philosophie, un milieu idéal dans lequel travailler. Bon, après, comme vous pensez, comme je le pense, que le christianisme a été l'événement le plus important d'un point de vue culturel, d'un point de vue spirituel dans la vie de l'humanité, vous comprenez aussi que pour moi, tout cela, c'est-à-dire enseigner dans un institut catholique, est aussi un honneur immense et me donne aussi la chance de contribuer, moi aussi, en tout petit évidemment, à la diffusion de la culture chrétienne. Donc
c'est donc ça qui vous fait vous lever le matin?
Oui, parmi les autres choses, oui, mais je dois aussi vous avouer que les cafés jouent un rôle principal aussi. Hein.
Merci beaucoup, Andrea Bellanton, et donc voilà d'être venu ce matin nous parler donc de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse et plus largement évidemment de l'Institut catholique de Toulouse. Est-ce qu'on peut donner peut-être des précisions pour ceux qui voudraient s'inscrire
ou, En général, on peut regarder notre site internet, le site internet de l'Institut catholique, ou venir nous voir directement au 31 rue de la Fonderie et demander des informations.
Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.